Michel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci de m'avoir invité.
Donc, pour rappeler un petit peu le podcast Histoire de la cyber, l'idée, c'est de rappeler des événements marquants de la cybersécurité à travers des personnes qui ont vécu cette histoire. Et effectivement, j'ai encore un invité de marque aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de choses. J'ai ma feuille ici. On va parler des RIAMS, du Campus Cyber, d'Orange Cyberdéfense et SecLab et encore, j'imagine, plein d'histoires et d'aventure en termes d'entrepreneuriat. Alors, on va parler aussi de votre parcours. C'est vrai que vous avez un côté être bon, entrepreneur, ça on le sait, mais aussi peut-être ingénieur. Enfin, il y a énormément de choses qui tournent autour de ce que vous avez en jus de cerveau. Et donc, sans plus tarder, je vous propose de vous présenter à notre audience, vous, votre parcours, la cyber.
Avec plaisir. Donc moi, je fais partie des anciens de la cybersécurité. J'y travaille depuis plus de 35 ans. Je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir autant d'années sur la cybersécurité. Donc, j'ai travaillé 10 ans pour des éditeurs de logiciels américains. On est vraiment tout au début, dans les années 95, donc à l'arrivée d'Internet, la création même de sociétés qui n'existaient pas encore, comme Palo, Fortinet n'existaient même pas. Ouais. Et nous, on était à proposer des solutions pour pouvoir sécuriser les mainframes, donc qui à l'époque géraient aujourd'hui l'informatique des grandes entreprises. Au bout de 10 ans de boîte américaine, je me suis dit, on sait bien, mais j'ai envie de créer ma propre entreprise. Donc en 2002, j'ai décidé de créer Atheos, donc une entreprise spécialisée dans deux domaines. Un domaine qui venait d'arriver, qui était la gestion des identités et des accès. Donc à l'époque, c'était qui a accès à quoi et pourquoi il a accès à un système d'information. L'IAM, voilà, c'est vraiment les débuts de l'IAM. Voilà, tout à fait. Et puis une autre filiale qui s'appelait Atlab, où là, on a amené en France, c'était aussi dans les débuts des années 2000, le concept de Red Team, de hacking éthique. Donc j'avais une bande de hackers blancs, comme on appelle, qui était là pour pouvoir faire ce qu'on appelle du test d'intrusion dans les différentes entreprises. On a fait évoluer Atheos, donc on est sorti un peu du concept IAM, on a commencé à faire du SOC, du cybersoc, toujours du pentest, etc. On est devenu un intégrateur un peu plus généraliste en cybersécurité. Et en 2014, je l'ai revendu à Orange. Avec comme projet de faire une passation. Et puis, en discutant avec les managers d'Orange, on s'est dit, mais s'il y a bien un acteur qui peut être crédible dans le domaine de la cybersécurité, c'est Orange, puisqu'en tant qu'opérateur réseau, opérateur de confiance, il y a des choses à faire. Et en fait, on a fait simplement, on a rebaptisé Atheos, on l'appelait Orange Cyberdéfense. Et Orange Cyberdéfense, aujourd'hui, l'acteur que vous connaissez, c'est 1,2 milliard de revenus, je crois, aujourd'hui, plus de 4 000 collaborateurs, et c'est vraiment le numéro un en Europe de la cybersécurité. J'ai quitté Orange Cyberdéfense en 2020, puisque j'ai été nommé par le ministre de l'époque pour créer le Campus Cyber, donc au départ, pour proposer un projet de préconfiguration du Campus Cyber, projet qui tenait à cœur au président de la République. J'ai remis mon rapport et on m'a dit, écoute, ton rapport, il est vachement bien, on va le faire et t'as qu'à le faire. Voilà. Et donc, donc, on est parti d'une feuille blanche avec Cédrico, qui était ministre à l'époque, et puis Guillaume Poupard, qui était patron de l'ANSSI. Et puis, on a créé ce campus qui, aujourd'hui, est un fleuron aujourd'hui de la cybersécurité française, que j'ai quitté donc en 2024 pour racheter une société, donc éditeur logiciel de cybersécurité dans le domaine des actifs critiques et industriels qui s'appelle SecLab.
Bon, on a eu une petite aparté tout à l'heure là-dessus, ce qui est très intéressant. On va en parler aussi. Et pas que, parce que moi, j'ai encore dans mes papiers d'autres choses. Donc, pour un seul homme, ça fait beaucoup. On va parler de tout ça en détail. Est-ce qu'on pourrait parler avant, parce que j'ai mis ça dans un ordre chronologique. Je ne sais pas s'il est bon, mais dans tous les cas, il va intéresser nos auditeurs. C'est ce qu'on appelle les RIAMS.
Oui, les RIAMS. Donc, les RIAMS, c'est un événement. On a fêté la 20e édition l'année dernière. Voilà, donc c'est quand même un événement qui a fait ses preuves, puisque les gens y reviennent avec plusieurs particularités. La première, c'est qu'on fonctionne en mode Chatham House, c'est-à-dire que, hormis les initiés, peu de gens connaissent aujourd'hui les RIAMS, si on n'en fait pas de publicité. On réunit les 120 plus grands patrons de la cybersécurité française pendant 3 jours. En mode vraiment complètement fermé, pour partager aujourd'hui sur les tendances et surtout faire des retours d'expérience. C'est-à-dire, j'avais telle problématique, voilà comment je l'ai traité, avec quel éditeur je l'ai traité. Ça se fait vraiment sous forme d'échange. Il y a des gens qui appellent ça un peu le Davos de la cybersécurité. On l'a fait à Saint-Tropez. Alors, non pas parce qu'on va faire la fête, mais parce qu'à Saint-Tropez, on a un contexte hôtelier qui est extrêmement bien fait, qui fait que moi, je peux me consacrer sur le contenu et pas sur savoir dans quelle chambre d'hôtel je vais mettre et comment vont être traités mes clients. On a maintenant un vrai partenariat avec la ville de Saint-Tropez. Et en fait, pendant 3 jours, ils arrivent le mardi soir, repartent le vendredi. On travaille avec différents... ateliers, on va dire, donc des ateliers qui sont animés par eux. Là, cette année, on a 4 ateliers en parallèle sur des simulations de gestion de crise liées à leur activité. Donc, j'ai mon opérateur télécom qui est tombé, comment je gère mon entreprise. J'ai mon opérateur cloud qui s'est fait hacker, comment je gère. J'ai une attaque interne, comment je gère l'attaque interne. Voilà, des choses très concrètes. Ils travaillent pendant 2 heures dessus. Ils en font une restitution le vendredi. On a des plénières, donc aujourd'hui, le thème de cette année, c'est comment on fait de la cybersécurité dans le contexte géopolitique actuel, où on est presque en cyberguerre, et voilà, comment on protège les infrastructures un peu critiques. On a des retex, on fait aussi des speed démos, c'est-à-dire que les éditeurs viennent et ils ont 3 minutes pour pitcher. Et si vraiment ça intéresse, le CISO leur donne sa carte de visite pour qu'ils puissent le rencontrer pour aller un peu plus loin. On fait plein de choses un peu particulières, et puis quelques... des activités, on va dire, de networking pour créer de la convivialité, faire ce que les gens se sentent bien ensemble. Et c'est vrai qu'on a une population qui est extrêmement fidèle. On a vraiment top niveau, Total, BNP, Crédit Agricole. Vraiment au plus haut niveau de la cybersécurité, à 80% qui font que cet événement et qui sont actifs. On a un bureau extrêmement actif qui prépare, le CESAN fait partie, par exemple, pour représenter les RSSI français. Voilà, c'est un événement qui... est peu connu, sauf par les gens qui y participent et qui y tiennent vraiment. C'est bloqué dans l'agenda d'une année sur l'autre. Et en fait, on ne fait pas d'invitation. C'est que de la cooptation. Et c'est un événement qui fonctionne plutôt bien. Ouais.
Et c'est donc français, mais est-ce qu'il y a aussi des sociétés étrangères, enfin des RSSI étrangers qui participent?
Alors, quelques-uns. Pour l'instant, on tient. Alors moi, je suis un peu un grand fan quand même de montrer qu'en France, on fait des choses. Donc voilà, donc c'est un événement français et francophone. On a des interventions en anglais, puisque là aussi, quand on est un groupe international, parfois on a à travailler avec des gens comme Google, comme Microsoft, donc on les fait venir justement pour un peu discuter avec eux. On fait bien des startups aussi, parfois françaises, mais aussi israéliennes et californiennes. Voilà. Mais l'écosystème reste extrêmement francophone. On a des Suisses, quelques Marocains, voilà, mais toujours à des niveaux d'entreprise. Alors, ce n'est pas du snobisme. Parce qu'en fait, au début, les RIAMS s'appelaient les RIAM, puisque c'est lié à Theos, et c'était les rencontres de l'identité et de l'access management.
Voilà, on est dans l'histoire. Voilà.
Et donc, ça, c'était en 2005. Et en fait, la problématique, c'était... moi, je vendais aujourd'hui les prestations autour de l'IAM, et tout le monde me disait, mais quand on est un grand groupe, c'est trop compliqué, Michel, tu comprends, moi, 120 000 utilisateurs, créer des role profiles, gérer les accès, mettre en place un SSO, tout ça, c'est impossible. Je dis, si, c'est possible, regarde, ton confrère de telle banque, par exemple, l'a fait, et si tu veux, il vient au RIAM, il va te raconter comment il a fait. Donc, c'est comme ça que les RIAM ont été créés. Au début, on était une trentaine, et puis peu à peu, ça s'est agrandi, ça s'est élargi en termes de thématiques, donc on les appelait les RIAMS, les rencontres de l'identité, de l'audit et du management de la sécurité. Il fallait bien qu'on colle un truc. Voilà. Et maintenant, c'est resté avec... je pense qu'il y a 80% des gens qui ne savent pas ce que veut dire RIAMS et qui connaissent l'événement.
L'acronyme mystère.
C'est ça.
Oui, puis c'est important que nos auditeurs comprennent que dans l'écosystème cyber, on a le public, il y a aussi ces choses. Mais dans le privé, c'est des choses à faire. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que les deux se rencontrent, mais il faut aussi que les deux aient leur propre écosystème. Et s'il n'y a personne qui le fait dans le privé, à un moment donné... et il va avoir un manque. Et donc, les RIAMS permettent justement au top niveau
d'échanger dans un contexte en mode, comme j'expliquais, toujours un peu confidentiel. Pour mettre le contexte aussi, quand j'ai créé les RIAM, à l'époque, la cybersécurité, c'était vraiment le début. Palo Alto, c'était créé en même temps, en 2005. La cyber, c'était des firewalls, des antivirus et un peu d'IAM. Donc, voilà. Et à l'époque, faire parler des CISO de sociétés concurrentes les uns avec entre eux, c'était tabou, quoi. C'était péché, quoi. On n'avait pas le droit. Donc le CISO de BNP Paribas n'avait pas le droit de parler à celui du Crédit Agricole, etc.
Ah oui, d'accord.
Et c'est pour ça que je me suis dit, mais ils ont envie de le faire. Et il y a des petites choses qui se faisaient un peu en loose day. Et on s'est dit, bon, on va l'officialiser et partager sur ces retours d'expérience et dire, j'ai réussi tel projet parce que je l'ai fait comme ça. Voilà les écueils que j'ai fait. ça rend service à son confrère. Et puis, d'un autre côté, quand c'est lui qui fera un truc, il aura un autre service. J'ai des anecdotes. Par exemple, à un moment, il y a eu les attaques DDoS, de saturation de réseau, là. Et il y a eu une grosse attaque sur une des banques où le pirate disait mettez tout ce qu'il avait pour pouvoir faire tomber la banque et saturer les réseaux. Et on s'est aperçu qu'à la fin, il donnait tout et il n'allait pas jusqu'au bout. Quand il a attaqué d'autres banques, on a pu dire, vous voyez, retour d'expérience, il ne va pas jusqu'au bout, donc ne paye pas de façon... Voilà, c'est un peu des choses comme ça qu'on a partagées.
Oui, Très bonne anecdote. Voilà, là, on comprend l'émulation de ce genre de... Parce que tout le monde n'a pas la connaissance de ce qui peut se passer dans une association ou ce genre de choses. Mm-hmm. Et donc, c'est très bien d'avoir mis tout ça sur la table aujourd'hui. Je pense que les RIAMS, maintenant, tout le monde sait c'est quoi. Par contre, on va peut-être commencer à parler du campus cyber. Mmh. Alors, campus cyber, tout le monde sait ce que c'est. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur le contexte ? Alors, j'ai entendu le président Macron qui était évidemment dans la boucle, Guillaume Poupard, directeur général de l'ENSI, etc. Comment est venue cette idée de campus cyber ?
Alors, l'histoire, parce qu'il y a toujours un début. En fait, donc, moi, j'ai été appelé par, au départ, les gens de l'ENSI, en me disant, Guillaume sort d'un conseil de défense où le président leur a dit, je veux créer un Bershiva à la française. Donc, Bershiva, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le grand centre de cybersécurité israélien, plutôt très étatique et très fermé. Et donc, le cahier des charges, c'est ça, on veut créer un Bershiva à la française. Donc, les gens de l'ANSSI, au début, on se sont dit, le président veut... aujourd'hui, regrouper tous les services étatiques qui font de la cybersécurité au sein d'un lieu où on va tous être ensemble et on va monter un projet dans ce sens-là. Et ils se sont pris un scud du président en disant « Mais non, vous n'avez rien compris, je veux un truc beaucoup plus large avec les acteurs privés, etc., etc. D'ailleurs, je veux que ce soit porté par les privés et soutenu par l'État. » Voilà. Donc, le Bershiva à la française, c'était un peu ça. Et c'est comme ça que j'ai été appelé en me disant « Toi, tu sais faire parler les gens ensemble, puisque tu as créé les RIAM, etc., etc. Tu connais bien, tu es reconnu dans le truc. On trouve que ce serait bien que tu travailles avec nous pour créer aujourd'hui ce concept et qu'on propose un concept. Donc, j'ai rencontré à l'époque Claire Landais, qui était la GDSN, donc la patronne de Guillaume Poupard, Cédrico, qui était le ministre du numérique à l'époque. On a proposé ma candidature à des membres un peu fondateurs qui étaient Thales, Atos, et Sopra, voilà, en disant est-ce que vous, et Orange bien sûr, est-ce que vous voulez aujourd'hui, est-ce que si on crée ce projet, vous y participerez, vous êtes les gros du secteur, est-ce que vous avez envie de le faire, etc., etc. La réponse a été oui, est-ce que vous êtes OK pour que ce soit Michel qui porte le truc ? Et l'histoire a commencé comme ça, donc on a commencé par démarrer en créant une configuration, ce campus, qui va accueillir et comment il va fonctionner, voilà. Donc on avait ce prérequis qui était privé-public, donc il fallait qu'on crée une société privée. Donc pour créer une société privée, il fallait avoir du cash et faire rentrer des actionnaires. Donc on s'est dit, à qui on va demander ? Donc on s'est dit, il faut que ce soit ouvert à tout le monde. Donc on pouvait être actionnaire du campus cyber, soit avec des tickets de 100 000 euros, c'était pour les très grandes entreprises, soit 30 000 pour les entreprises de taille un peu moins importante, soit 10 000 pour une association ou une start-up, etc., etc. Donc on a fait une création d'entreprise avec des augmentations de capital. On est monté jusqu'à un peu plus de 5 millions de tickets pour pouvoir participer au campus. Donc l'État a mis 3 millions. Voilà. Donc ça, on avait ce projet 60-40 à peu près. Ensuite, il fallait trouver un lieu. Bon là, les ennuis ont commencé, effectivement. Donc avec le politique, donc il y a tous les patrons de région, les sénateurs qui m'expliquaient qu'ils avaient tous une friche industrielle dans laquelle le campus serait formidable, il fallait absolument le mettre là, etc. Et de l'autre côté, moi, j'avais tous les jeunes qui me disaient, moi, si ce n'est pas au pied du métro, je ne viens pas. Donc, ce que eux ne pensaient pas, je pense que tu connais un peu les gens de la cybersécurité. Donc, je me suis dit, il faut que ce soit un lieu qui soit extrêmement facile d'accès, d'où ce lieu de plutôt sur le pied de la dalle, parce que non, on n'est pas sur la défense, on est juste à côté. Mais par contre, il y a le T2, il y a le RERA, il y a le métro, etc., qui arrive là, très facile d'accès. Et en se disant, on ne pourra pas dire, je ne viens pas parce que c'est compliqué d'y aller. Après, il a fallu trouver le lieu. Ça aussi, c'était assez rigolo parce que le campus aujourd'hui, c'est une tour de 26 000 m². Je ne sais pas si tu imagines, quand tu vas rencontrer, moi, c'était Alain Taravella, qui était le patron aujourd'hui d'Altaria Cogedim, là. en lui disant, voilà, votre tour, je vais vous la louer. Il dit, très bien, vous êtes patron de quelle entreprise du CAC 40, 26 000 mètres carrés. Non, je n'ai pas encore créé mon entreprise, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Quoi. On parle de 12 millions de loyers par an quand même. Hein. Le mec, il m'a regardé, il m'a dit, c'est qui ce clown quoi. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il vient nous raconter, lui, avec son truc, il a pas un rond, un machin, il a tout. Hein. C'est quoi votre caution? Mais non, mais j'ai rien, je suis en train de monter le capital. J'ai pu faire un one-to-one avec lui et vraiment lui expliquer le projet en lui disant... ça va marcher, de toute façon, croyez-moi, je suis certain, c'est soutenu par l'État, etc. Il a dit, OK, si tu as 50% de tes locataires, puisque c'était, moi, j'aurais été locataire, donc avec des sous-locataires qui s'engagent à, si jamais tu te casses la figure avec ton projet, à me payer directement le loyer, banco, je fais le projet. Donc, on a réussi à lancer le truc. Donc, on a commencé à vendre les mètres carrés disponibles, etc., etc. Parce qu'il faut quand même passer un moment, quand on crée un lieu, il faut quand même faire venir les gens sur le lieu. Et puis après, il y a le deuxième sujet, qui était le sujet, il faut aménager. Et pareil, on avait calculé, les aménagements du campus cyber, c'était 25 millions d'euros. Donc, et on n'avait toujours pas de cash. Et c'est là on a renégocié avec lui, pour ça qu'il a vraiment joué le jeu, en disant, plutôt que de nous donner de la franchise de loyer pur et dur, est-ce que tu peux aménager les locaux? Et on a fait un aménagement, je ne sais pas si j'étais au campus, mais voilà, c'est qualitatif pour attirer les gens. Voilà. Donc, oui, au départ, c'était vraiment un projet qui était comment je construis, comment je fais exister le projet physiquement et puis financièrement. Et en parallèle, donc, on a commencé à regarder qu'est-ce qu'on peut y faire au sein de ce campus, avec comment on fait travailler les gens ensemble, comment on permet à une start-up de rencontrer un grand compte, comment on permet à faire à ce qu'on crée des groupes de travail orientés autour du transport, orientés autour de la banque, etc., etc., ce qu'on appelle les commandes de la cyber. Et c'est tout ce projet qu'on a mis en place. Et souvent, les gens, maintenant, voient le campus en disant, voilà, c'est de la scission, ça existe. Mais ils oublient que quand j'ai démarré le projet, la tour était à peine construite. Voilà, moi, j'ai mis les pieds et le casque pour aller visiter la tour. Et surtout, on l'a fait en s'autofinançant complètement et en travaillant sur les bonnes volontés. Alors, c'est vrai que c'est plus facile. Par exemple, tu as Bruno Le Maire, qui a écrit à tous les patrons du CAC 40, en disant, on fait un projet de cyber, machin, tout, ce serait bien qu'il faut être actionnaire. C'est sûr que c'est plus facile que quand tu es vraiment tout seul et que tu fais de la prospection dans le dur. Oui. Donc, tout le monde a joué le jeu. Il y avait vraiment un bon triptyque avec l'État, représenté par l'ANSSI, le ministre qui jouait, Cédrico, qui mouillait vraiment la chemise, qui voulait sur le projet, et puis moi qui représentais les acteurs privés. On a réussi à créer un petit trio qui fonctionnait plutôt pas mal.
Oui. Bravo, parce que c'est quand même pas très commun. Pour tous les entrepreneurs qui nous connaissent, ou moi-même, les chefs de projet, etc., ils savent très bien qu'avoir cette force-là, il fallait quelqu'un qui manage tout ça. Et bravo à vous, parce que je ne pense pas que le projet aurait été aussi probant. Aujourd'hui, quelles sont alors les étapes du campus? On les a. Et qu'est-ce que le rôle du campus cyber pour vous? Est-ce qu'il a un petit peu changé? Bon, vous voyez, je vais en venir. Est-ce que ça a changé? Je sais que ça a changé de gouvernance. Ouais, voilà, vous pouvez nous en dire plus?
En fait, le truc, à un moment qui s'est posé, c'est ça. C'est de dire, c'est quoi la raison d'être du campus cyber? À quoi il sert? Okay. Je vais vous donner des exemples très, très concrets. Si on veut créer, on dit par exemple, ça va être un incubateur de start-up. Paf, hop, il y a tous les gens qui me disent non, mais moi, c'est déjà, il y a un truc qui s'appelle le cyber booster, mais c'est ça, c'est mon rôle. Tu vas pas, je suis venu au campus pour m'y installer, tu ne vas pas me piquer mon job. C'est pas grave, on va créer une offre pour pouvoir sécuriser aujourd'hui, par exemple, toutes les petites, les PME. Et là, il y a les mecs qui disent non, voilà, je m'appelle Orange Cyberdéfense, j'ai créé une offre spéciale pour les PME, ce n'est pas le campus qui va venir aujourd'hui me concurrencer, me faire venir pour me mettre créer des offres qui sont concurrentes à la mienne. On ne veut pas. Donc, déjà, il y a un contexte qui est pas évident. Donc, mon projet était de dire le campus doit être un peu le point focal entre l'État, les acteurs privés, les clients finaux et les éditeurs, etc. On doit être ça au milieu, on doit être la courroie de transmission de tout ça. Et on m'a dit non, ça c'est le rôle de l'ANSSI. Ça c'est l'ANSSI qui doit gérer tout ça. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec cette perception-là, mais en tous les cas, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc je me dis, mais le campus, il sert à quoi? Si on ne lui donne pas sa raison d'être et que ce n'est pas vraiment dit par ceux qui ont quand même 40% de l'actionnariat, qui est l'État, en disant le campus, son rôle, c'est ça, et qu'on définit vraiment sa mission. Moi, je n'ai plus, donc j'ai posé, j'ai balancé 2-3 briques dans l'eau, etc. J'ai fait un peu. On ne m'a jamais vraiment répondu, et moi, je suis un entrepreneur, quand je n'ai pas une mission claire, Voilà, donc changement de gouvernance, on verra bien ce qu'en fera le nouveau, et paraît que voilà, ça va être formidable, etc., etc. Il faudra régler ce problème. C'est que tant qu'on n'aura pas défini exactement à quoi sert le campus, et qu'on aura défini sa raison d'être et qu'elle sera actée, il y a plein de trucs qui existent à côté. Il y a le CESIN, les associations, voilà, le CESIN, le CLUSIF, etc. Donc ça, déjà, eux, ils disent, nous, on existe. Après, il y a le CSF, la filière numérique française, l'ACN, voilà, il y a des tas de choses qui existent, etc., etc. Après, voilà, bon, il y a Cybermalveillance qui fait des trucs pour pouvoir prévenir les PME, etc., etc. Il y a l'ANSSI. Enfin, tout ça, il y a un écosystème. Mmh. C'est quoi la place du campus? Je n'ai toujours pas la réponse, voilà. En tous les cas. Donc, moi, je suis passé à autre chose.
Oui, je comprends. Voilà. Ouais. On comprendra nous aussi. Ouais, c'est vrai que c'est une question, je n'étais pas la seule à me le poser. Maintenant, je comprends bien mieux pourquoi c'est difficile, et en tant qu'entrepreneur également. C'est sûr que si on n'a pas une feuille de route et il n'y a pas quelqu'un qui se place pour dire à quoi ça sert, à un moment donné, bon, on a envie de faire autre chose.
Voilà, il faut avancer, oui.
Ouais, je comprends très bien. Donc, oui, alors le campus cyber, je pense que c'est très clair. Il y a aussi autre chose qui est très intéressant et qui est devenu, vous l'avez présenté tout à l'heure, c'est OCD, Orange Cyber Défense. Il y a énormément de salariés, etc. C'est toute grosse entreprise. Et c'est vous qui êtes à l'origine. On a eu une petite explication sur la société que vous avez créée qui a permis de donner aujourd'hui OCD. Maintenant, comment vous retracez la création du développement? C'est-à-dire, pour vous, OCD, c'est quoi aujourd'hui sa place dans l'échiquier mondial?
Je pense très sincèrement, et le travail a été continué par Hugues Foulon, et vraiment, Orange a compris le rôle qu'il pouvait jouer dans la cybersécurité. Très sincèrement, c'est l'acteur majeur européen de la cybersécurité, avec un statut fort, qui est le statut d'être un opérateur de réseau. Qui mieux que Renault pour entretenir sa Renault? Qui mieux qu'un opérateur télécom pour sécuriser les données qui transitent et qui arrivent dans vos différentes entreprises? Voilà. Donc ça s'est fait pas à pas. Au début, vraiment, en continuant un peu ce qui avait été fait à Kateos et en profitant de la force d'Orange, en travaillant vraiment sur les très grands comptes, et au fur et à mesure de descendre vers les moyennes entreprises, les petites entreprises, même aujourd'hui le grand public, en se positionnant comme l'opérateur de confiance. Et l'opérateur de confiance sans cybersécurité, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui en termes de fraude, d'arnaque, etc., etc. Il y a vraiment une place aujourd'hui qui est importante. Et Orange est un opérateur en France, mais aussi dans d'autres pays. Mmh. Et il y a toute une place à jouer. Voilà, donc je pense que Orange Cyberdéfense, c'est une ADN particulière, avec aujourd'hui cette compétence quand même d'opérateurs d'infrastructures critiques. Il y a toujours les gens d'Orange Business aujourd'hui qui sont là, qui construisent des réseaux un peu sensibles, qui installent, qui connectent des usines entre elles, etc., etc. Il y a tout un savoir-faire qu'on va un peu moins retrouver dans les grandes SS2I aujourd'hui. Il y a ce savoir-faire qui est là. Orange aussi travaille sur les réseaux un peu sensibles. Il y a toute cette expérience-là. Ça a été facile, en fait, de créer Orange Cyberdéfense. Je ne sais pas là pour me la raconter, mais quand on s'appelle Atheos et qu'on a les compétences, le jour où on s'est appelé Orange Cyberdéfense, ça a tout changé. Rien que le nom. Ouais. Bon, d'ailleurs, les anecdotes, ça sont assez exceptionnelles parce que voilà, pour moi, c'était naturel. Voilà, j'étais racheté par Orange, on faisait de la cybersécurité. Est-ce qu'on faisait de la cybersécurité, de la cyberdéfense? Je me suis dit, on va s'appeler Orange Cyberdéfense. Et là, je me suis fait exploser par les gens de la marque du groupe. Mais pour qui te prends-tu? Comment peux-tu te permettre d'utiliser notre marque comme ça? Elle vaut 40 milliards. Tu ne nous as même pas demandé ton nom. Il faut que tu passes par la brand clinique. Donc, je ne sais pas ce que c'est que la brand clinique. Dans tous les cas, voilà, je me suis retrouvé avec la brand clinique. Ils ont dit, on va trouver un nom. Donc, ils sont revenus me voir au bout de 15 jours. On a trouvé un nom. Ça s'appelait Mêlée. Ça a appelé Mêlée. Mêlée? Ben oui, parce que tu comprends, c'est un pack aujourd'hui qui protège et qui avance. Mais j'ai dit, c'est bon. Voilà, bon, bref. Au bout d'un mois, ils ont dit, ouais, tout compte fait, le bon nom, c'est peut-être Orange Cyberdéfense. Mais je n'avais pas le droit d'utiliser le carré d'Orange. C'était réservé à la marque. Donc, il fallait s'appeler Orange Cyberdéfense. D'ailleurs, dans les salons, parfois, c'était un peu compliqué parce qu'Orange Cyberdéfense, je ne sais pas comment ça fait de lettres, mais c'est énorme. Et à côté, tu as, n'importe quoi, un logo beaucoup plus petit. Ouais. Bref, au fur et à mesure, maintenant, ça y est, on fait le carré marqué Cyberdéfense à côté. Mais c'est tout un peu le phénomène des grands groupes qui peut être un tout petit peu rigolo. Donc, à la limite, ça a été extrêmement bien perçu par les clients. Tous les grands comptes sont clients d'Orange. Donc, d'avoir une filiale dédiée à la cybersécurité, ça leur plaisait, etc. etc. On peut les accompagner grâce au OBS au niveau international. En externe, c'est en interne que c'était toujours un tout petit peu plus rigolo. Oui. Avec, voilà, donc, c'est qu'il précaré de chacun, etc. etc. Voilà, c'est, bon, voilà, mais c'est une boîte extraordinaire, Orange. J'en garde un next, voilà, un super souvenir. J'en parle avec le sourire, d'ailleurs.
Bah oui, je vois ça. C'est peut-être votre plus grande fierté sur les trois, le RIAMS et le Campus Cyber, OCD.
Non, je ne sais pas. J'aime me sentir utile, créé. Et à partir du moment où on est plus dans la gestion, c'est moi mon truc. Et il y a des gens qui font ça extrêmement bien. Ouais, oui. Et je pense qu'il faut savoir aussi laisser sa place quand on sent qu'on est moins utile de donner la place à d'autres. Voilà.
Oui,
c'est un peu ça. Mais non, il n'y a pas. Je pense que les RIAMS, quand même, ça, c'est vraiment un événement qui me tient à cœur parce que ça m'a permis d'avoir des relations aujourd'hui avec les grands de la cyber. Je parle plutôt côté client, extrêmement amical, des relations de confiance. On apprend plein de choses. Et en fait, c'est un milieu qui est hyper. Hyper sympa, enfin je ne sais pas comment exprimer ça, mais faut savoir que la place de la cyber, je ne vais pas vous l'apprendre, mais dans les entreprises, au début c'était l'emmerdeur quoi, qui empêche de développer vite. Maintenant c'est le couteau suisse qui doit régler tous les problèmes de la boîte parce qu'effectivement tout est numérisé. Et donc se retrouver au mois de mai ensemble, entre nous, et de pouvoir discuter librement. Ça fait beaucoup de bien et ça crée une vraie solidité et puis voilà, des vraies amitiés aussi.
Oui, des vraies amitiés, puisqu'on parlait tout à l'heure de certaines personnes qui sont même des amis proches de vous.
Exactement.
Qui sont dans l'écosystème cyber. Donc, je comprends très bien. D'ailleurs, c'est vrai qu'avec là aujourd'hui, le sujet, c'est l'IA.
Ouais.
On n'arrête pas d'en parler, évidemment. On ne va pas refaire toute l'histoire. Enfin, l'histoire, non, mais l'histoire de. Je veux dire, de ce qui se passe en ce moment avec l'IA. On sait tous qu'on va avoir de plus en plus d'attaques sophistiquées. Il y a en ce moment Mythos là, qui fait débat, etc. Peut-être au marketing ou peut-être justement on n'est pas assez prêt. Ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure, SecLab. C'est un sujet qui m'a qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la technologie de SecLab et à quoi ça sert?
Oui, alors si on revient à la question initiale, c'est effectivement, on parle énormément de l'IA. Il y a quelques années, c'était le cloud. Il y a toujours des grandes ruptures technologiques qui arrivent. Moi, je reviens toujours tout ça, ça fonctionne quand même tout le temps sur les infrastructures. Et on ne parle jamais assez des infrastructures, des grands data centers qu'il faut protéger, etc. etc. Voilà. Donc, je pense que dans le contexte en plus géopolitique actuel, qui devient de plus en plus instable et avec des gens qui prennent des décisions parfois un petit peu particulières. On se dit, la première chose, et on le voit quand il y a eu l'Ukraine, la première chose qu'ont essayé de faire tomber les Russes, c'est le réseau de télécommunications, le réseau satellitaire pour justement empêcher les drones de passer, etc. etc. Là, on est en contact avec quelques entreprises aujourd'hui de l'énergie du côté des Émirats qui nous disent on a des cyberattaques parce qu'effectivement, si on peut faire tomber l'électricité, bah, pour balancer des bombes. Enfin, voilà. Donc, les infrastructures, aujourd'hui, c'est quand même ce qu'il faut protéger en premier. Donc, il y a des phénomènes. Ouais, effectivement, l'IA va amener des tas de choses. Mais n'oublions jamais que tout ça s'est construit quand même sur du concret et que ça doit vraiment être protégé et que c'est des choses essentielles à protéger. Donc, c'est pour ça que j'ai racheté SecLab. Je l'ai racheté EDF parce qu'en fait, quand EDF a lancé son programme de nouvelles centrales nucléaires, les centrales nucléaires aujourd'hui, on a des centrales, il y en a moins de 60, je pense, en France, qui sont commandées de façon numérique, avec le même système aujourd'hui d'information. Donc, il fallait pouvoir les mettre à jour, mais tout en n'étant pas connecté à Internet. Donc, le dilemme, c'est comment je suis connecté sans être connecté. Et en fait, ils ont bossé pendant des années. Alors, on aurait pu dire, c'est pas grave, tu mets des firewalls. Sauf que les gens qui font de la cyber savent que les firewalls, aujourd'hui, c'est vulnérable. Tous les jours, on entend parler, il y a telle vulnérabilité sur le Palo Alto, donc il faut patcher. Il y a celui-là sur Fortinet. Fait que c'est pas assez sûr pour protéger le parc nucléaire français. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on développe quelque chose qui soit inviolable. Et pour que ce soit inviolable et invulnérable, c'était de faire quelque chose qui n'ait pas de code. C'est-à-dire n'est pas de vulnérabilité puisqu'il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de code. Et voilà, le développement de SecLab, c'est ça. C'est un boîtier qui permet de dire, je me mets en interconnexion du réseau, donc le réseau non sûr et le réseau sûr, et je le coupe complètement par ce boîtier. Je fournis à mes clients deux passerelles d'administration, deux guichets d'administration, le gars qui va administrer le réseau non sûr et celui le sûr, et au milieu, c'est complètement coupé. Donc en fait, je crée un mur, et en fait, dans ce mur, je ouvre des trous d'épingle. Et donc, le gars qui est sur le réseau A va dire, je souhaite t'envoyer tel flux réseau qui vient de telle adresse IP, est-ce que tu l'acceptes ? Oui, donc, oui, je l'accepte. Et, quand il l'a, et seulement quand il l'accepte, ça passe. Et au moment où on transite ce flux, voilà, c'est en plus, on vient flinguer, on fait ce qu'on appelle de la rupture protocolaire, voilà. On vient flinguer tout ce qui est couche réseau, on recrée complètement une couche réseau et on laisse passer le flux. En fait, c'est comme si vous aviez un camion qui arrivait avec un colis. On prend le colis, on s'assure que le colis soit vraiment sain. On met dans une zone tampon et c'est un camion tout neuf de l'usine qui vient le chercher et qui l'emmène. Donc, c'est inviolable. Donc, voilà. Je me suis dit avec ça, mais Michel, je vais faire, un carton. Quoi. Et là, je me suis aperçu que les gens me disaient, ah, Michel, ta techno, j'adore. Mais si tu savais, aujourd'hui, je ne sais même pas ce qu'il y a dans mes usines. Je ne sais même pas. Ouais, ça, voilà, ça a été numérisé peu à peu, machin, tout. On a géré toute la cybersécurité de l'IT, de la gestion, etc. On ne s'est jamais occupé de ce qui se passait dans les usines. Et on a, au début, peu connecté les usines. Mais aujourd'hui, avec la transformation numérique, tout est connecté parce qu'on a besoin de récupérer de l'information, etc., etc. Et donc, j'étais un peu freiné dans cette lab pour pouvoir... Parce qu'on me disait, quand j'en serais à isoler les systèmes sensibles, c'est que déjà, j'aurais pris en compte la cybersécurité de mes usines. Michel, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et là, j'ai racheté, donc, l'année dernière, à Bouygues Télécom, une technologie de cartographie. C'est-à-dire que maintenant, j'ai dit, au fait, tu ne sais pas ce qu'il y a. Ben moi, ça tombe bien. J'ai un outil qui fait de la cartographie extrêmement précise des installations critiques et industrielles. Je donne une map complète de tous les flux qui passent, toutes les connexions qu'il y a entre les différents serveurs, etc. etc. Et à partir de là, ben, je peux te donner un plan à mettre en place pour justement sécuriser ce qui est le plus sensible pour l'usine. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne doit jamais tomber ? Et en disant, si jamais j'avais moins de cyberattaques, j'ai au moins protégé ce qui est essentiel pour faire fonctionner mon système d'information et donc mon entreprise.
Oui, alors ça, on a fait peut-être une petite digression sur l'histoire de la cyber, mais pas vraiment. Je tiens à l'expliquer quand même, c'est qu'aujourd'hui, les problèmes d'OT et d'IT et cette interconnexion, j'ai travaillé un peu dans les systèmes Indus, c'est vraiment catastrophique. C'est très, très difficile à mettre en place. Et là, on a vraiment une technologie française.
Ouais.
Qui, à l'avenir, peut devenir une des références, parce qu'on sait que là, on a vraiment une imperméabilité qui va peut-être justement pouvoir résoudre ce problème. Donc, c'est pour ça qu'il était très important d'en parler. Et peut-être qu'on va revoir ce podcast dans quelques années et on dira, bah, on avait bien fait. Voilà, Michel. Bah, en fait, il y a énormément de choses. Hein. Quel beau parcours. Beau parcours, bon, bah, vous, personnellement, hein, de beau parcours d'entrepreneur. Et aussi, beaucoup d'histoires pour nous. J'espère que les personnes qui travaillent aujourd'hui chez OCD, tous les RSSI CISO qui sont chez les RIAMS ou toutes personnes qui peuvent aller au campus cyber en sauront un peu plus sur comment et pourquoi. Et je voulais vous remercier d'avoir pris le temps parce que je sais que vous êtes un homme pressé et c'est très sympa d'être venu pour nous pour témoigner de tout ça.
Un grand merci de m'avoir interviewé.
Merci Michel.